Anne-Caroline Pandolfo, Terkel-Richberg, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions d'Argo de votre nouvelle collaboration Copenhague. Si je vous dis un polar sur fond de romance au pays des contes de fées, ça vous va ?
Bah oui, c'est un bon résumé, je crois. Je crois qu'on a essayé de jouer avec tous les codes de la romance typique américaine au polar. On a à la fois lu Simenon, regardé des films, tous les codes se mêlent pour raconter cette histoire, cette traversée de Copenhague.
Oui, il y a un mélange de genres, par contre, qui est tout à fait européen, je pense. On se permet vraiment d'aller de piocher. On a des références très, très vastes autour de nous.
Alors, le postulat de départ, donc on a trouvé une sirène nante à Copenhague. Et d'où vous est venue cette idée et surtout cette rencontre entre Nina et Tu ?
Je pense que c'est une idée qui est venue inconsciemment avec le confinement, le Covid. Et où tout le monde s'est mis à son balcon à jouer de la musique et dessiner, peindre, etc. et faire appel à son imaginaire pour dépasser un petit peu l'angoisse du moment. Et j'ai pensé qu'est-ce qui se passerait si on n'avait plus cette possibilité de sortie, enfin cette poésie en nous qui nous permet de nous échapper. Et comme Copenhague est une ville qu'on connaît particulièrement bien, je ne sais pas exactement comment s'est fait le déclic, mais la petite sirène qui symbolise la ville, l'enfance, l'esprit d'enfance avec Andersen, etc., ça s'est mélangé. C'est un sujet.
Naturellement.
Oui, naturellement.
En fait, vous vous êtes rencontrés en 2000, donc plusieurs collaborations donc au niveau de la BD. En fait, on a difficile à vous retrouver. On ne vous trouve jamais où on pourrait vous escompter. Vous êtes votre envie de dérouter le lecteur, c'est volontaire.
C'est pas une envie de dérouter le lecteur, c'est une envie de nous dérouter nous. On a besoin de travailler sur des sujets qui nous stimulent. Et donc on part quand même à chaque fois sur des choses nouvelles qui vont nous permettre de faire des recherches différentes on apprend beaucoup comme ça, quoi. On prolonge nos études.
Pour moi, il y a une grande cohérence quand même si on est dans tous les pays du monde, un livre à un autre, de différentes époques, de différents genres. Pour moi, ça a un sens. Et c'est vrai que dans ce dernier livre, plus que jamais, on utilise les différents genres littéraires, justement, au cinématographique.
Est-ce qu'il y a un modus operandi entre vous, la façon dont vous travaillez ?
Ah oui. Moi, je commence à faire un scénario. Et on en parle vraiment beaucoup, Terkel et moi, tous les matins. On commence comme ça. Et puis, au bout d'un moment, quand on est d'accord sur le scénario et qu'on a convaincu notre éditrice, on va travailler ensemble tout le découpage, le storyboard, le rythme. Et en fait, on fabrique ensemble un brouillon de la bande dessinée des 300 pages. Et ça nous permet de coller le texte au bon endroit, de pas être répétitif entre le texte et l'image, et puis aussi de faire évoluer le scénario en fonction du dessin. Enfin, c'est vraiment une symbiose dessin-scénario. Tout ça, c'est vraiment une partie qu'on fait ensemble et qui est hyper importante. Et après, c'est Terkel qui finalise complètement les pages, le dessin. La couleur aussi, sur des décisions qu'on a prises ensemble.
Ouais. Et là, c'est d'autres choix qui viennent en compte, parce que toute la narration est contrôlée à ce moment-là. Ensuite, dans l'ancrage, la finalisation, on devient plus précis dans la composition de chaque image, de chaque page, etc.
Est-ce qu'il y a un fil rouge entre donc l'art brut, le don de voyance, Karen Blixen, Albertine Sarrazin, les Perceval et la Table Ronde, et un mini trip à Copenhague?
Oui, alors je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais je suppose quelque chose qui a à voir avec. Avec ce monde imaginaire auquel on a toujours accès pour se sortir de toutes les situations ou pour envisager les choses autrement. une sortie du réel, quoi, une sortie par la poésie. C'est peut-être ça le fil rouge. L'esprit d'enfance aussi.
Une sirène paralysée, un caniche rose, il ne manque plus que l'éléphant bleu. On est en plein délire maintenant.
Alors, il se trouve que les caniches roses, c'est très réaliste. J'étais partie d'une photo que j'ai vue, une photographe allemande. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Et je suis tombée sur cette photo par hasard qui représentait un club de caniches. Donc, avec des personnes très hiérarchiques, comme ça, assises sur leur siège. Et tout autour, une trentaine de caniches de toutes les tailles. Et ils n'étaient pas roses à proprement parler, mais quand même grèche, beige. Et ça existe. Comme les petits soldats qui jouent de la musique au début, la fanfare, etc. Ça a l'air. Enfin, on nous demande souvent c'est quoi ce fantasme. C'est pas un fantasme, c'est une réalité à Copenhague.
Ouais, ça crée des bouchons tous les jours.
Quotidienne.
Hein. À ce point.
Ouais. Ouais. Après, quand vous dites éléphant bleu, caniche rose, ça sonne tout de suite comme si on est dans la littérature d'enfance. En fait, pas du tout. On parle de l'enfance et on parle de la perte de l'enfance, mais c'est pas pour autant un livre pour enfants.
Alors, on va découvrir un pays en émoi, une reine quasi vénérée, qui est une passerelle temporelle avec des lunettes et une couronne. Cette fierté nationale, c'est une notion qu'on a perdue peut-être un petit peu chez nous. Et est-ce qu'au Danemark, elle est bien réelle?
Je pense qu'elle perdure, effectivement. Oui. C'est une presqu'île, mais je pense que c'est une société qui fonctionne comme une île aussi. Hein. Parce qu'ils ont eu des grandes défaites en fin 19e siècle, et à partir de ces guerres contre la Prusse, c'est un pays qui s'est beaucoup fermé quand même, qui ont fermé les frontières, et qui ont toujours partiellement... Il y a un sujet qu'on déborde légèrement sur l'immigration qui est compliqué, hein, qui est spécial, parce que les Danois sont plutôt... c'est une des sociétés les plus équilibrées du monde, on le sait. Ils sont plutôt ouverts d'esprit et historiquement de gauche comme sociodémocrates. Mais en même temps, quand on a des élus de droite, ils ont qui ne cesse de rendre plus sévère la politique d'immigration. Les Danois ont tendance à avoir confiance du moment où ils ont voté pour des politiciens. Et oui, il y a ce côté micro-société qui est souvent pris en exemple aussi par ailleurs. C'est une société qui semble fonctionner. Hein. Il y a moins de pauvreté, il y a moins de riches aussi que la plupart d'autres pays avec lesquels on se compare.
C'est la maman aussi, enfin c'était la maman, cette reine. Moi, je n'ai jamais entendu personne me dire du mal d'elle.
Non.
C'est marrant, tout le monde est partant quoi, avec elle.
Ouais.
Alors que chez nous, en France, peut-être autant au Danemark, on a cette impression d'enfance, justement, comme si tout le monde était l'enfant de la reine. Alors que chez nous, on est plutôt des ados et on pète tout. Hein, en France, tout le monde râle, manifeste, casse les vitrines. Donc c'est
ouais, les Danois râlent moins.
Hein. Au Danemark, ils ne comprennent pas cette attitude de révolte qu'il y a chez nous.
Ah non, les manifs à Paris, ça, pour nous, c'est du grand spectacle. Tout comme chez nous, quand il y a les petits soldats de la reine, ceux qui se promènent en ville... Pour un Français, forcément, ou un touriste, c'est tout quoi, c'est surprenant. Ouais. Ouais. Parce que c'est bien qu'à Londres, ils sont vraiment centre-ville, ils bloquent tout, quoi.
Alors, comme vous le disiez, on a tous une âme d'enfant, on a un peu Peter Pan, et comme dit le père de Mia, en tuant les sirènes, c'est l'enfance qu'on assassine, et même la reine qui précise qu'on a touché un trésor national à notre enfance, à tous. C'est vrai que on sent du Peter Pan quand même un petit peu dans votre BD, non?
Oui, sans doute, il y a de ça. C'est une référence à laquelle je n'ai pas pensé, mais c'est juste. Il y a cette idée, tu dis à un moment, oh mais nana, être adulte, c'est tellement l'injustice. Et ça, c'est vraiment une idée de base du livre. Oui. Ouais.
Est-ce que vous êtes des nostalgiques? Vous avez plus ou moins 50 ans est-ce que, comme on dit dans votre BD, plus besoin comme Ulysse et ses hommes de s'attacher aux mains, la cacophonie contemporaine a rendu le chant des sirènes inefficace? C'était mieux avant, non?
Ah, moi, j'ai pas du tout l'impression que c'était mieux avant, non. J'ai pas de nostalgie, toi non plus, je crois pas. On essaye de comprendre ce qui a bougé. Et on a des enfants qui ont 15 ans et pour nous, c'est important d'observer et puis de participer à leur monde, quoi, pas d'être en arrière et de trouver que tout était mieux avant. Mais tout n'était pas mieux avant. Non, mais après, on est effrayés tous les deux par ce qui se passe autour de nous. Mais on l'était déjà quand on était plus jeune.
Oui, mais
c'est une constante.
Complètement. Et qu'on voit, il y a des choses qui vont en arrière. C'est qu'il y a un moment quand même que des choses vont avancer aussi. Hein. La montée de l'extrême droite, ça fait peur aujourd'hui. Mais ça veut dire que... Enfin, j'ose croire encore que
ça fait peur, mais la libération de la parole, le féminisme, les engagements pour le climat, pour la planète, tout ça c'était mieux quand même.
Des choses qui sont devenues des sujets qui ne l'étaient même pas avant. Hein, donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Pas assez, jamais assez vite. Hein.
On est nostalgique. Enfin, moi je suis de l'esprit de l'enfance, oui. L'adolescence aussi, ça va être notre prochain sujet. Et de ces périodes où on a une grande liberté d'émerveillement ou une grande liberté de révolte aussi. Mais ça, c'est à toutes les époques. C'est pas une nostalgie d'époque.
Votre BD, c'est en fait une invitation au voyage, en tout cas pour découvrir le Danemark. Est-ce que vous êtes adepte des grands voyages ou des mini-trips ?
Depuis assez longtemps, on prend plus d'avion déjà, hein, pour des différents raisons. Grand voyage. Enfin, les livres, ça peut être des voyages aussi. Hein. J'improvise un peu, mais on voyage tous les jours dans la vie, je crois, non ? Si c'est avec des livres qu'on fait, des livres qu'on lit, ou l'entourage, les gens qu'on voit. Par le passé, on a plus voyagé qu'on le fait actuellement.
Moi, j'aime bien tous les genres. Hein. Des grands voyages où on part pendant 3 mois au Japon, ça nous est arrivé. Aux États-Unis, c'est des trucs qu'on... Qui sont hyper stimulants. Et puis les petits voyages comme on fait régulièrement à Copenhague, c'est bien parce que c'est régulier, donc on a une connaissance de la ville. C'est comme les gens qu'on voit tout régulièrement, les grands amis, quoi. C'est une grande amie, Copenhague. On la connaît de mieux en mieux, puis d'une fois sur l'autre, on retourne sur les lieux qu'on aime et on en connaît d'autres.
Il y a un exotisme du Nord qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement avant, qui est maintenant.
C'est vrai, quand on y allait il y a 15 ans, il n'y avait pas de tourisme.
Tout.
Hein,
mais des Allemands, des Suédois, mais là.
Moi j'étais brune et j'étais exotique hein, là-bas.
Dans le bus, tout le monde était blanc, sauf toi.
Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mixte. Hein,
Et aujourd'hui, tout le monde, d'emblée, même moi, je suis danois, donc danophone, beaucoup de gens dans les cafés, des restos, ils me parlent direct en anglais.
Ah ouais.
Tellement c'est mixte, ouais.
Ouais.
Énormément d'étudiants de partout.
Et on voit avec la sortie du livre aussi et son titre, tous les lecteurs qu'on a pu rencontrer sur les salons nous disent « Ah, j'étais à Copenhague l'an dernier » ou « Ah, justement, j'avais l'intention d'y aller cette année ». Oui, c'est devenu vraiment des destinations avec la chaleur aussi qui attire. Hein. Enfin, la chaleur partout.
La non-chaleur.
Parce que là-bas, c'est pas le cas.
Et c'est vrai que la petite sirène fait toujours rêver, mais comme vous le dites, c'est vrai qu'on est surpris par la taille quand même.
Ouais. Elle est toute petite. Hein.
La cool attitude, c'est propos danois.
C'est vrai, hein, c'est le cas. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont peut-être, de manière générale, assez calmes, les Danois,
ouais,
non
oui.
Assez calmes et direct et transparent comme ça, donc ça donne une impression de cool. On les voit pas manifester, s'énerver, hurler, enfin, et tout ça, ça a l'air d'être très de chez nous, très français, je veux dire.
Ouais.
Pas les soupolets.
Laquelle vous avez fait des études de cinéma à l'université de Copenhague. Est-ce que cette formation a conditionné votre travail en tant que dessinateur?
Bah, conditionné, j'aimerais mieux que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que ça a ouvert quelque chose plutôt que ça m'aurait enfermé dans un système. Hein. Mais oui, mais comme bah, nos références, Anne-Corinne et moi, ça va loin et ça va vers le cinéma aussi. Dans les compositions des images et des plans, j'ai toujours un regard sur pas forcément ce que j'ai appris aussi pendant ces études, mais plutôt ce que j'ai pu voir et ce que je continue à voir, comme ce qu'on lit. Donc non, ces études universitaires ont pas forcément 5 années dans la vie, ça change forcément quelque chose, heureusement. C'est pas gratuit, mais je sens pas.
Je veux dire, dans votre approche de dessin, est-ce qu'il y a une vision un peu peut-être plus mise en scène cinématographique ou des références
La mise en scène, on fait beaucoup ensemble. Après, oui, bien sûr, j'ai encore des. Le noir et blanc, j'ai un grand amour pour le cinéma américain et français aussi, des années 50-60, même avant aussi. Hein. Après, quand vous dites tout à l'heure, est-ce que c'était mieux avant? Non, le cinéma n'était pas mieux dans les années 50, je dirais jamais ça. Mais c'est vrai que le noir et blanc du cinéma de cette époque-là, ça me touche particulièrement. Après, la mise en scène, c'est quelque chose qu'on gère ensemble. On a tous les deux travaillé dans le dessin animé aussi. Donc moi, je cherche toujours à avoir une rigueur un peu invisible. C'est-à-dire, la narration est toujours très importante, le placement des personnages, la direction des regards, où ils se déplacent. C'est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Je suis assez ferme avec ça pour éviter des incohérences ou des contradictions. Voilà. Mais je ne veux pas que ça se voit.
Mais par contre, tu fais quand même un travail sur la lumière et sur le noir, les contrastes qui est très recherché,
qui est poussé ou qui est conscient aussi, oui, complètement, ouais.
Et qui fait partie complètement de toi, enfin.
Qui fait partie de moi, et en même temps, grâce à toi, j'essaie aussi d'éviter du réalisme, hein. Parce que quand je parle de l'amour de cinéma, c'est vraiment beaucoup plus en prise de vue réelle. J'ai toujours regardé beaucoup d'animations, mais beaucoup moins maintenant. Et c'est pas graphiquement, ça m'inspire plus, je crois. Le cinéma d'animation, le cinéma du réel, oui. Mais en dessin, je cherche pas un dessin réaliste. Non. Le maître mot pendant toute la production, enfin toute la fabrication de ce livre, là, ça a été de l'élastique. Anne-Caroline m'a dit tout le temps, sois plus élastique dans le dessin, justement pour avoir une dynamique de ces deux personnages un peu foufou dans ce décor finalement assez figé, puisque la ville est confinée pendant l'histoire. Quoi.
Vous êtes des collectionneurs de boules à neige qui rendent mélancoliques?
Non, alors...
On en a deux.
Alors, l'éditrice d'Argo Suisse, il nous a offert une magnifique boule, là, hyper magique.
Tout récemment.
Ouais. Tout récemment, oui. Et sinon, j'ai une boule avec la petite sirène dedans. Mais c'est tout, non, on n'est pas collectionneur.
Ni de cactus.
Ni de cactus.
Ni de chien.
Anne-Caroline Terkel, un grand merci. Donc on rappelle le Copenhague qui vient de sortir aux éditions d'Argo. Merci.
Merci.